Podcastobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.
Bonjour Sébastien Char.
Bonjour Marc.
Sébastien Char, vous êtes à la tête d'Alter Audio Vidéo, une société qui importe du matérialifi, comme on dit. Alors la haute fidélité, le beau son, vous êtes un peu tombé dedans, on veut dire, depuis le berceau, puisque votre père, Daniel Char, était le créateur de Micromega.
Tout à fait.
Micromega, pour lequel vous avez donc commencé à travailler. Et ensuite, donc, vous avez monté Alter Audio Vidéo. Quand on est comme ça dans un milieu d'audiophilie, est-ce qu'il y a au début, comment ça se passe sans faire du Freud de Monoprix? Il y a une obligation? On est tout de suite. Le son, c'est en soi depuis toujours. Comment on vit au début ce rapport avec le son et peut-être même la musique en général? Vous étiez peut-être tout simplement mélomane, fan de musique avant tout.
Alors avant toute chose, avant que Micromega existe, moi je suis né dans une famille d'artistes, c'est-à-dire que des années avant que même l'idée de Micromega naisse dans la tête de mon père était ingénieur du son. Il a dirigé entre autres le studio d'Avou, il a conduit des enregistrements de nombreux artistes, jazz, et notamment il s'est occupé de Claude François pendant de nombreuses années. Donc j'ai grandi tout petit dans cette ambiance-là, une ambiance baignée de musique, les studios d'enregistrement, etc. Et j'ai une maman qui était danseuse. Voilà, donc on va dire un univers familial extrêmement artistique. Donc il y a certainement conduit à ma sensibilité sur la musique, qui a été une des premières émotions artistiques que j'ai ressenties tout petit. Et par la force des choses, je pense que, évidemment, en ayant baigné dans cet univers avec une famille très proche des milieux artistiques, j'ai eu envie, moi aussi, de trouver ma voie dans ce métier sans forcément suivre les traces de mon père.
Alors, rappelez-nous un peu l'histoire un peu de Micromega et quel était votre rôle quand vous avez commencé à travailler pour la société de votre père.
Alors, la société Micromega a été créée à la fin des années 80 sur la décision de Daniel Char et de la prise importante, on va dire, de la musique à l'époque sur le format CD. Le constat, c'était qu'à l'époque, il n'existait pas vraiment de lecteur de CD haut de gamme, que c'était traité comme un média qui allait devenir un média de production grand public. Et on sentait qu'il y avait un besoin important, comme à l'époque, on avait sur le vinyle de customisation ou de platine haut de gamme, etc. Il y avait un vrai besoin, une vraie demande de consommateurs. Et on sentait que le média allait prendre de plus en plus d'importance. Alors qu'aujourd'hui, il est quasiment en train de disparaître et que la platine existe toujours. Donc, il y a eu un constat qui a été fait. Il y a des partenariats qui ont été créés dès le départ avec la société Philips. Et puis, la marque Micromega a été créée comme ça. Voilà, sur une réflexion de création d'un produit ultime pour l'écoute du CD. Moi, j'ai rejoint la société à l'âge de mes 16 ans. Après avoir suivi mon père un petit peu partout dans les salons, etc. L'usine, au début, était une usine familiale, donc elle était quasiment sur le lieu d'habitation. Donc, ayant traîné pendant de nombreuses années dans les ateliers, le soir, les week-ends, après l'école, on va dire que c'était un petit peu un parcours normal, voire quasi obligatoire. Donc, à l'âge de 16 ans, j'ai fait une formation en alternance. Et je remercie déjà... pas que mon père, mais les gens à l'époque de la société de m'avoir accueilli, parce que c'est pas facile d'être le fils d'eux. On m'a ouvert les bras, les gens ne m'ont pas jugé, et j'ai commencé au plus bas de l'échelle. Voilà, comme livreur, après chauffeur, après coursier, après au montage, et puis par la force des choses, je me suis senti une vraie sensibilité pour le commerce. Et donc, j'ai suivi cette voie-là jusqu'en 2006. Voilà, donc pendant près de 14 ans.
Qu'est-ce qui vous a poussé justement à monter Alter Audio Vidéo et à devenir importateur? C'est une sorte de trait d'union finalement entre le fabricant et ensuite le client.
La sensibilité. Le poste le plus important et le poste que j'ai préféré chez Micromega, c'était le poste de directeur commercial. Pas qu'en France, puisque je m'occupais aussi de l'export. Et à l'export, bien évidemment, on va vous rencontrer d'autres importateurs qui sont vos clients, qui distribuent d'autres marques. Et puis, avec les années, vous devenez amis avec d'autres fabricants, puisque vous les rencontrez pendant les mêmes salons, que ce soit à Munich, à Vegas, un petit peu partout, en Angleterre, en Italie. Et vous créez un réseau amical, puisqu'en fait, vous n'êtes pas là pour être en compétition, mais vous êtes là pour être en famille au sein d'un même importateur. Donc, j'ai rencontré des gens fabuleux à travers toute cette jeune vie de directeur export. Et quand la société Micromega a pris un tournant qui était plus industriel que familial et commercial, j'ai préféré créer ma société justement pour retrouver cette émotion et vivre les produits différemment.
Au début, quand on commence, quand on se lance dans une telle aventure, il faut un peu, j'allais dire, créer son portefeuille de clients, de marques. Donc il y a, j'imagine, des données d'un côté commercial, c'est-à-dire le potentiel d'une marque, la faire venir en France, puis après peut-être des données plus d'ordre philosophique par rapport à des produits dans lesquels on croit énormément et qu'on a envie justement de développer. Comment se sont passés les premiers mois, la première année de la société? Vous avez commencé avec quelle marque?
J'ai commencé les premières années avec des accessoires. Parce que quand on n'a pas d'argent, moi j'ai commencé avec mes propres deniers, j'ai demandé d'aide à personne, donc il faut avoir quelqu'un qui vous fait confiance. On a beau s'appeler Sébastien Char, être le fils de Daniel Char, c'est une nouvelle entreprise. Je voulais pas du tout profiter ou utiliser justement ce nom, je voulais me faire un prénom, j'avais déjà un nom, et j'ai commencé par le bas, exactement comme j'avais commencé chez Micromega, donc avec de l'humilité, je suis allé voir des fabricants, je leur ai dit voilà, je monte ma boîte, j'ai des idées, je sais à peu près comment je peux conduire les affaires en France, j'ai une vision peut-être différente des autres du commerce, j'ai un rôle particulier en tant qu'importateur parce que justement j'ai été de l'autre côté de la barrière, j'ai été de votre côté à vous, donc je sais ce que c'est que de fabriquer un produit, je sais ce que c'est que de faire du SAV, je sais ce que c'est que d'avoir des problèmes industriels et de fabrication, je sais ce que c'est qu'un coût de fabrication, donc je peux me positionner comme un importateur différent, un importateur nouveau. Et le mot alter a été choisi pour ça, alter audio, pour être l'autre, l'alter ego du fabricant, pour être vraiment son binôme et sa courroie de transmission de ses idées et de ses émotions sur le terrain. Donc au début, ça se fait simplement avec des petites choses. La première marque que j'ai distribuée, c'était une marque d'accessoires hollandais. Et puis ensuite, une marque vient après l'autre, jusqu'au moment où on a des opportunités, où on prend des risques, où on relève des challenges. Et le challenge le plus important, ça a été Musical Fidelity. Voilà, qui cherchait à l'époque un distributeur. L'ancien importateur arrêtait sa société. La marque avait été pas très bien distribuée pendant plusieurs années. Elle était en souffrance. Elle avait vraiment besoin d'être mise en lumière. Elle avait vraiment besoin de retrouver quelqu'un qui s'en occupe. C'est souvent le cas d'ailleurs. Les marques sont souvent entre les mains de gens qui les ont depuis très longtemps, qui vivent un petit peu sur leurs acquis. Et parfois, les marques s'endorment tout doucement. Et là, il y avait un vrai besoin de dynamique. La chance que j'ai eue, c'est qu'on arrivait avec des nouvelles gammes de produits qui trouvaient tout de suite une niche de consommateurs, notamment autour des DAC, de la musique dématérialisée, et ça a été un vrai tremplin. Voilà.
C'est ce que j'allais vous demander, c'est-à-dire que quand vous avez créé votre société en 2006, on était au début de la période de transition par rapport au support, c'est-à-dire que le mot crise du disque et du CD plus précisément tournait déjà dans l'air. Maintenant, effectivement, on est dans l'ère de la musique dématérialisée, les pieds dedans, même si c'est encore peut-être une phase de transition, il y a encore peut-être certains inconnus par rapport aux pratiques que les consommateurs utilisent ou utiliseront d'ici quelques mois. Comment justement on vit ce parallèle entre la naissance de votre société et ce marché qui est en pleine mutation d'une certaine manière?
Comme une chance. Comme une chance parce qu'à partir du moment où il y a un bouleversement, ça veut dire qu'on peut forcément se faire une nouvelle place. Les cartes sont redistribuées. Moi j'ai grandi avec le vinyle. J'ai eu mon adolescence avec le CD. Et puis, j'ai ma vie de consommateur d'aujourd'hui, à 36 ans, avec la musique dématérialisée. La seule différence, c'est que j'ai une ouverture d'esprit. Je ne suis pas dans un état de crainte, je n'ai pas peur. Et je trouve que ce qui se passe et ce qui évolue est une chance monstrueuse. Je ne dirai jamais assez merci à monsieur Steve Jobs d'avoir inventé l'iPod, parce que les jeunes n'ont jamais autant écouté de musique. Peu importe la qualité de la musique qu'ils écoutent, ça refait écouter de la musique aux gens. Ça a permis de casser ce diktat permanent qu'il y avait et de redistribuer les cartes. Donc nous, ça nous a donné une chance. Maintenant, il est vrai, sans langue de bois, que ça a été une crainte énorme pour notre marché. Les revendeurs ont tout de suite, exactement comme avec l'arrivée de l'Internet pour la vente à distance, si on doit comparer, les commerçants se sont dit Internet va nous tuer, il faut absolument que les marques que vous distribuez ne soient pas présentes sur Internet. Aujourd'hui, vous n'avez pas une seule marque qui pourrait se passer d'Internet pour distribuer. Comment maintenant un fabricant pourrait se dire « je peux penser demain » sans avoir de produits en musique dématérialisée. Moi, je suis convaincu, si on lit un peu à droite à gauche, que dans moins de 2-3 ans, 60 ou 70% des produits qu'on vendra auront une connectivité. C'est obligatoire.
Chez Cobon, on est bien placé pour ça. On sait que musique dématérialisée ne rime pas évidemment avec son pourri, pour faire simple et court. C'est vrai que c'était des questions, si on revient quelques années en arrière, on n'était pas encore convaincus. C'est-à-dire que dématérialisation, c'était égal à MP3. Et donc,
dématérialisation, voilà, égale compression. La tête
compression, exactement. Voilà. Et donc on était quand même à des années-lumière finalement de l'idée de haute fidélité. Est-ce que vous-même, il y a eu une crainte par rapport à ça ? C'est-à-dire qu'au début, est-ce que vraiment on allait pouvoir offrir ? Est-ce que les marques audiophiles, les marques qui soignaient ce son...
La crainte a été vite dissipée quand vous êtes un petit peu curieux et que vous allez un peu sur les forums, que vous lisez un petit peu ce que les gens écrivent à droite à gauche. C'est-à-dire que si vous restez chez vous, devant votre ordinateur, à ripper vos CD, que vous ne comprenez pas trop ce qui se passe, ça peut vous faire peur. Si vous allez un peu sur les forums, que vous lisez à droite à gauche ce qui se passe, sur Internet, les players qui apparaissaient, J-River, Amara, on se rendait compte qu'il y avait des gens qui étaient dans le pro, qui commençaient à sortir des solutions pour le grand public, qui apportait vraiment, vraiment une avancée technologique et une simplicité. Donc il suffisait simplement d'avoir une paire d'oreilles, on ripait un CD, on le branchait en USB sur son DAC, sur son ampli, et puis on comparait avec la source originale, et puis on se rendait compte qu'il y avait soit un gain, soit aucune perte. Voilà. Donc la crainte était très vite dissipée. Maintenant, il a fallu beaucoup de courage à Cobuzz et aux autres pour y arriver. Mais beaucoup de courage, c'est même militant, je dirais.
Comment vous travaillez en direct avec les marques quand vous êtes un peu presque leur représentant? Si on prend les Anglais de Musical Fidelity par exemple, vous distribuez des produits, donc vous êtes un peu comme une sorte d'ambassadeur aussi d'une certaine manière.
On est des vrais ambassadeurs, oui.
De la marque. Comment ça, et en même temps, vous l'êtes sur un territoire précis avec des pratiques de consommation qui parfois peuvent changer d'un pays à l'autre. Comment ça fonctionne par rapport à ça, si on prend cet exemple-là, par exemple, de Musical Fidelity?
La chance qu'on a avec une marque comme Musical Fidelity, c'est que c'est ni une toute petite entreprise, ni une très grosse. Donc, on a l'avantage d'avoir une société qui fait en face de nous un peu plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y a une quarantaine de personnes qui travaillent. La quasi-totalité est assemblée ou finie en Angleterre, à Wembley, dans une usine qui est à 4 heures de voiture de Paris. Donc, on a une proximité. On a une proximité avec les gens qui conçoivent les produits, avec les gens qui les fabriquent. Donc on peut, quand on s'y intéresse vraiment, et quand on fait ce métier comme moi, je l'entrevois, d'importateur, on peut s'impliquer. Mais on s'implique avec un degré qui est à la hauteur de ce que veut bien vous laisser comme place le fabricant. Donc, mais on est sur des fabricants qui sont pareils en mutation. Musical Fidelity, c'est une marque à 35 ans. Elle se redécouvre dans la musique dématérialisée, une nouvelle jeunesse. Pour toutes ces marques-là, c'est aussi un formidable rebond des ventes, parce que Musical Fidelity a vendu, je crois, pour faire des chiffres très simples, sur l'espace des deux dernières années, plus de 30 000 VEDAC. C'est un score qui est, à l'échelle de notre métier, à l'échelle d'une entreprise comme ça, énorme. Donc ça veut dire 30 000 nouveaux consommateurs, on a fait rentrer la marque chez 30 000 nouveaux clients.
Justement, ce changement de mentalité, où finalement l'audiophilie était presque un peu une sorte de club de fumeurs de cigares il y a une vingtaine d'années, avec des gros carnets de chèques et des gros comptes en banque, ce qui peut toujours évidemment être le cas. Puisque
on a besoin des gros fumeurs de cigares et des gros carnets de chèques.
La gamme est très vaste, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'avec la musique dématérialisée, on a accueilli assez rapidement dans ce cercle-là un public un peu plus large, avec des moyens, on va dire, plus raisonnables.
Je vais prendre l'exemple très simple de mes potes, quoi. Mes potes qui n'y connaissent rien, la hi-fi, qui sont des gros consommateurs de musique, soit au bureau, soit dans la bagnole, soit sur l'iPod parce qu'ils ont des gamins ou ils ont tous envie d'écouter de la musique, qu'ont tous une trentaine ou une quarantaine d'années, qu'ont grandi avec un passé musical lié à l'adolescence et au jour d'aujourd'hui, ils ont envie d'autre chose. Mais ils n'ont pas forcément envie d'y consacrer 15, 20, 30 000 euros. Donc haute fidélité rime pas forcément avec argenté. Voilà. Et l'idée, c'est de casser ce code, de dire l'hi-fi, c'est pas réservé aux riches. Avec des produits d'entrée de gamme, bien foutu, bien conçu, qui en donne pour le client, je veux dire, sur le plan qualitatif, on arrive. Et la musique dématérialisée, elle a permis déjà d'enlever des maillons. Les maillons très simples, je veux dire, au jour d'aujourd'hui, l'interface entre un ordinateur et un ampli, il n'y en a plus qu'une seule. Et demain, il n'y aura plus, les DAC seront intégrés dans les amplis et on n'aura plus de DAC externe. Voilà, donc on a permis de concentrer de la technologie dans un rapport performance-émotion-prix qui est très compact. Et les fabricants qui vraiment font leur boulot, et il y en a pas mal, hein, même chez mes concurrents, aujourd'hui font un bel effort pour le client, pour faire découvrir cette musique.
Alors aujourd'hui, Alter Audio Vidéo, vous importez à peu près combien de marques?
On importe 4 marques qui sont Musical Fidelity, Stax, qui est un fabricant mythique de casques électrostatiques, voilà, qu'on représente fièrement depuis un an. Pareil qu'on a repris, Stax était un peu en souffrance. Stax est une marque qui a plus de 60 ans. Elle vient d'être rachetée par un énorme groupe qui est leader mondial de la fabrication d'enceintes pour ordinateurs, qui s'appelle Edifier. Qui a acheté ça en se disant on achète une pépite parce qu'il faut la préserver, et on est extrêmement content que ce soit arrivé. On distribue également une marque américaine qui s'appelle PS Audio, qui est une marque qui a une trentaine d'années, qui est dirigée par Paul McGowan, qui est un des grands gourous, comme l'est Anthony Michelson chez Musical Fidelity, du son, qui fait partie des barons qu'ont créé la haute fidélité avec Michelson, Dan D'Agostino de chez Krell, Mark Levinson, etc. Vraiment les grands barons de ce métier. Eux ont pris, il y a très tôt, le virage de la dématérialisation. Ils font des DAC avec des cartes réseau intégrées, avec leur propre application. Ils ont leurs propres ingénieurs, ils développent leur appli iPad en interne, etc. Ils ont créé leur propre système de management de musique. Voilà, c'est des gens qui se sont dit, de toute façon, on n'a pas le choix. Si qualitativement, on n'y va pas, si on ne sort pas des produits top, technologiquement hyper avancés, avec une interface consommateur géniale, on est mort. Voilà, on est mort parce que de toute façon, on va se rétrécir à vue d'œil et on n'évoluera pas. Et finalement, on va se retrouver noyé dans la masse. Donc, les gens qui sortent vraiment leur épingle du jeu sont des gens qui ont une création, une innovation absolument ahurissante. Voilà. Moi, je suis ébloui par les gens qu'on représente.
Est-ce que vous voyez pour l'instant, parce qu'effectivement, il y a d'un côté, vous avez comme interlocuteur donc, tous ces gens-là qui sont effectivement presque dans un laboratoire, enfin, qui sont même souvent concrètement, physiquement dans des laboratoires, en train d'essayer de créer finalement les pratiques, non pas d'aujourd'hui, mais de demain, voire d'après-demain. Vous avez face à eux un public qui, pour l'instant, est en phase justement de commencer à mettre le doigt dans l'engrenage de la consommation. Comment vous voyez un peu le marché aujourd'hui, en 2012, par rapport justement entre ça? Comment le public, et les spécificités françaises même par rapport à ça, comment voyez-vous le public et quel est un peu le profil finalement aussi bien de l'audiophile dématérialisé?
Alors, si on doit parler de marché, on est obligé de l'envelopper dans sa globalité. On va dire qu'il y a quatre niveaux. Vous avez la grande distribution qui n'a encore pas compris que la musique dématérialisée, c'est important. À part sur le casque et l'iPod. Donc eux, ils n'ont pas encore compris que tous ces consommateurs qui fréquentent leur magasin, que ce soit la Fnac, Boulanger, Darty, avaient un potentiel d'achat sur des éléments séparés. Ils sont en train de le réaliser, mais ils ne l'ont pas encore compris. La Fnac avait fait marche arrière sur ses auditoriums passion, maintenant elle refait marche avant. Vous avez en dessous de ce niveau-là tous les très grands trades type Cobra, Magma, Efficimo qui ont pris le pas très tôt. Et eux, ils ont justement piqué des clients, en étant très franc et très honnête, à la grande distribution, parce qu'ils ont mis des gens en face des produits. Et puis ensuite, vous avez les trades, qui eux sont arrivés sur le tard, en se disant dématérialisation égale le diable, donc on n'y touche pas, c'est pas possible. Ils continuent à entretenir le mythe du vinyle, parce que le vinyle, etc. Donc ils se sont appuyés sur ce retour du vintage. Et puis vous avez tous les types qui vendent sur Internet, et notamment des gens extrêmement forts comme sonvideo.com, il y en a d'autres, hein, Accéphile, vous en avez plusieurs, qui sont vraiment mis dessus très tôt. Et qui ont dit, nous voilà, ça fait partie du marché, on va faire le tri entre les bons et les mauvais produits, et on va proposer les bons produits à nos clients, on va faire une sélection. Donc il y a un constat de départ, tout a changé il y a quelques années, toutes les cartes sont en train de se redistribuer et je pense que ça va se lisser dans le temps et que le consommateur va retrouver petit à petit son chemin dans les magasins. Et je pense qu'il y a des consommateurs qui vont découvrir des nouveaux magasins s'ils font bien leur travail. Communication par Internet, aller chercher des clients sur des nouveaux marchés, commencer à communiquer différemment, s'ouvrir aux gens, ne pas avoir peur.
Thank you.
Sur les usages, vous voyez le public un peu comment entre téléchargement, streaming, et certains même qui continuent, même en faisant ça, à avoir une pratique vinyle ou autre, avoir une sorte de... Alors c'est une quantité, on va dire, assez restreinte de mélomanes et d'audiophiles. Mais...
Bah, je pense qu'on ne peut pas cantonner la musique à, comme un type de musique. La forme dans laquelle elle est produite apporte une émotion différente. Il y a une émotion différente en écoutant un vinyle de Maria Callas, ou en écoutant un vinyle des Pink Floyd, qu'en écoutant un vinyle des Daft Punk, ou alors en écoutant un streaming. Je pense que c'est lié à l'instant. Vous avez le côté un petit peu cérémonial, un petit peu retour en arrière du vinyle que moi je trouve super sympa. Maintenant, le côté extraordinairement pratique et fabuleux qu'on a avec une plateforme de streaming comme Qobuz, où vous appuyez en quelques clics de souris ou alors sur des abonnements en illimité qualité CD, vous n'avez plus à vous poser de questions. Vous allez aussi découvrir des nouveaux artistes que vous n'avez pas forcément découvert parce que vous n'avez pas envie d'acheter, parce que les CD coûtent très cher. Donc, je dirais qu'il y aura, à mon avis, une fracture. Je pense que le vinyle va perdurer, le CD va disparaître, parce que le CD n'a pas le côté collector qu'a le vinyle. C'est un produit qui n'est pas inscrit. On va dire que le vinyle, c'est un peu le laserdisc de la vidéo. Voilà, on va dire que les gens qui ont des grosses collections, ils ont gardé leur laserdisc, ils ont bazardé leur DVD et aujourd'hui, ils achètent de la VOD. Je pense que les gens qui ont des grosses collections de disques, ils jetteront leurs CD ou ils les vendront, ou ils les riperont, ils les mettront à la cave. Et par contre, ils exposeront leur vinyle dans leur salon. Parce que c'est un côté beau, parce que c'est physique. Voilà. Donc, et puis il y a des gens qui achèteront jamais de vinyle. Moi, j'ai deux enfants, ils ont 9 ans et 7 ans. La première fois qu'ils ont écouté de la musique, c'était sur un iPod. Voilà. Donc un vinyle, pour eux, c'est un produit extraterrestre.
Comment vous voulez développer Alter Audio Vidéo par rapport au nombre de marques que vous voulez avoir en plus ou pas? Est-ce que quelles sont un peu vos ambitions de...
Alors j'ai un slogan qui est assez minimaliste, c'est peu mais bien. Voilà. C'est-à-dire qu'on est une petite entreprise dans un petit marché avec un petit réseau de revendeurs où on essaie justement de tirer notre épingle du jeu. Donc si vous regardez la sélection d'Alter Audio, c'est vraiment une sélection de marques. Rien n'est en concurrence et tout est complémentaire. Musical Fidelity est une marque avec un ADN très fort, inscrit dans le numérique et dans l'analogique depuis très longtemps, avec une très forte innovation. PS Audio, vous avez deux gammes, la gamme pour la partie électrique et la gamme pour la partie streaming. Et en gros, il y a 4 produits. Chez Stax, c'est une marque emblématique, il y a 4-5 produits. On distribue maintenant une marque belge d'enceinte acoustique électrostatique. Pareil, il y a 4 modèles. On va avoir une marque qui va nous rejoindre d'ici le début du mois de mars. Où pareil, il y a quelques modèles. Voilà, c'est une sélection de marques fortes, uniques, avec un vrai savoir-faire et qu'on peut défendre parce qu'elles ont des valeurs qu'on sait transmettre. Voilà.
Est-ce qu'il y a des types de produits que vous ne distribuez pas pour l'instant, mais que vous auriez envie justement de distribuer? Peut-être justement vous orienter vers des choses que vous ne faites pas pour l'instant, même tout en restant, en gardant un nombre de marques assez restreint?
Il y a des marques que j'aurais adoré distribuer parce qu'elles font partie, elles font partie des mythes de ce métier et elles sont entre de très bonnes mains. Vous avez des marques comme Martin Logan, Sonus Faber, qui sont distribuées par Audio Quartet. Vous avez des marques comme Wilson, qui sont des marques sublimes, fabuleuses, Mac, Audio Research. Elles sont très très bien distribuées. Maintenant, moi je suis plutôt à la recherche de marques, de grandes marques, avec des grandes qualités, mais qui sont en souffrance. En souffrance parce qu'elles ont soit mal vécu la transition des générations. Comme je le disais, moi j'ai une trentaine d'années, les gens qui ont fait ce métier sont plutôt près de la soixantaine, donc vous avez une transition de génération. Vous avez, moi je suis un peu vieux dans le métier, mais je suis jeune quand même, donc vous avez une génération changeante en ce moment. Donc on va dire que dans les 10 années qui viennent, il y a forcément des cartes qui vont changer de main. Parce que les gens qui ont fait ce métier il y a 30 ans vont partir à la retraite, vont vendre leur entreprise ou tout simplement céder leur activité ou arrêter. Donc, je suis à la recherche de marques fortes. Des marques, il y en a, hein, on vous en propose toutes les semaines, on en refuse tous les jours. Maintenant, une marque, ça doit avoir un ADN. Voilà, ça doit avoir des grandes valeurs. Et puis, on doit pouvoir s'exprimer à travers cette marque et puis ça doit pouvoir aussi coller à nos envies, à notre méthode de distribution qui est très différente de nos confrères.
Alors dites-nous si les cordonniers sont les plus mal chaussés, vous écoutez la musique comment? chez vous ?
Alors moi, j'écoute de la musique sur une chaîne que j'ai la chance de partager, qui est une chaîne familiale, qui est une chaîne exceptionnelle, qui plaira pas à tout le monde. Ça, c'est pas le problème, ça me plaît à moi, c'est le principal. Elle est en permanente évolution par rapport aux électroniques que j'utilise. On va dire que tous les jours au bureau, j'écoute avec un Stax, sur mon DAC avec du Cobuz. Parce que bah, quand je fais ma compta, il n'y a rien de plus sympa que de s'isoler du monde. Et c'est vraiment une immersion et un mode de consommation de musique très particulière. L'écoute au casque, Stax, c'est encore voilà, une autre sensation, comme on pouvait dire tout à l'heure, cigare, pinard et vinyle. Là, le Stax, c'est un autre univers. Sinon, moi, j'ai une paire de Wilson avec des électroniques musicales Fidelity.
Vos pratiques d'écoute ont changé aussi, c'est-à-dire que vous êtes passé au dématérialisé très rapidement ?
Ah, très tôt. Très tôt parce que ça correspond à mon mode de vie. C'est-à-dire nomade, en permanente évolution, et je n'aime pas être prisonnier de quelque chose. Donc, et puis je suis extrêmement curieux. Donc la première, pour faire malheureusement de la pub à un de vos concurrents, la première source de streaming que j'ai utilisée, c'était Spotify. Et j'avais trouvé ce média extraordinaire parce qu'on pouvait se promener à droite, à gauche, partir à la découverte, un petit peu comme dans une jungle musicale où avec le choix d'un artiste, on allait rebondir sur un autre. Et je me suis trouvé des artistes que je ne connaissais même pas, que j'aurais jamais découvert. Donc un peu comme dans une grande bibliothèque où on rentre et on sort les livres les uns derrière les autres, on en lit et puis on en découvre d'autres. Voilà, le streaming, je trouve que ça c'est un côté fabuleux et c'est ce qui est en train d'arriver chez Cobuz, on a cette découverte sans limite. Ce mot illimité est un mot extrêmement fort. Pendant très longtemps, on a été limité, ne serait-ce que par l'argent qu'on pouvait y consacrer. Moi, je vois les sommes astronomiques d'argent qu'on dépensait quand on allait à la FNAC. On comptait ses sous parce qu'on avait acheté 3 Miles Davis, 2 Dizzy Gillespie. On se disait, ben là, l'album des Pink Floyd, le remaster que je voudrais, j'attendrai le mois prochain, quoi. Et on se limitait au plaisir. Et là, on se dit, voilà, c'est l'inverse. Maintenant, on va partager notre catalogue et on va vous donner, pour la première fois, l'instinct de ne pas posséder, mais d'être usufruitier. Et de se dire, bah voilà, vous en êtes usufruitier, mais vous êtes en illimité. Pour moi, ça a été une révolution.
Quels sont les produits actuels qu'Alter Audio distribue qui vous excite le plus et que vous aimez le plus défendre ou qui vous semble vraiment clé, phare, étonnant. Alors, j'imagine que c'est peut-être que vous demandez de choisir entre vos enfants, mais...
Non, pas choisir entre mes enfants, parce
est-ce
que...
quelques produits quand même
Mes produits, je les aime tous. Ceux qui m'excitent le plus, c'est ceux que j'aurai demain. C'est normal. Il y a des produits qui vont arriver chez Musical Fidelity, top, cette année et l'année prochaine. Chez PS, c'est pareil. On va pouvoir faire enfin du multi-room, être concurrent de Sonos avec une offre audiophile. Ça, je trouve que ça va encore tout changer. Si aujourd'hui je devais faire une sélection, un best-of, allez, on va dire des 4 produits pour en retenir que 4 sur une centaine à peu près tout mélangé, le SR009 de chez Stax, parce que c'est un délire, c'est un casque qui vaut 5 500 € en électrostatique, 3 500 avec son ampli, ça fait 9 000 €, ça paraît être au jour d'aujourd'hui une fortune, mais c'est une émotion musicale, moi j'ai les poils qui se dressent quand je l'écoute, donc rien que ça, voilà. Le M1 DAC de chez Musical Fidelity avec le VDAC parce que ça a bouleversé la musique dématérialisée, ça fait rentrer un niveau de qualité et de performance sans limite, pour rebondir sur le mot limité. Et puis chez PS Audio, les Power Plant et puis le E-Lyric, le système de management musical, parce que ça prouve l'intelligence de ce constructeur.
Eh bien, donc, je rappelle que tous ces produits sont distribués par Alter Audio Vidéo. Merci Sébastien Char.
Merci Marc. Et puis je voudrais rajouter un petit truc parce qu'aujourd'hui on est la Saint-Valentin. Alors même si ce podcast ne passe que ce week-end dimanche, eh ben, je souhaite une joyeuse Saint-Valentin à ma chérie Sabrina, elle se reconnaîtra. It's now or never. When I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I've spent a lifetime waiting for the right time.
Now that you're near, the time is here at last. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Now or never, my love won't wait. Just like a willow, we would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me, let your arms invite me. For who knows when we'll meet again this way. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow now or never, my love won't wait. It's now or never, my love won't wait. It's now or never, my love won't wait. It's now or never.
Rencontre par Marc Zisman.